Quoi ? Et la main à demi tendue vers lui, il l'examinait, tout décontenancé par la colère de son visage. Frédéric répliqua sèchement « Adieu ». Il descendit la rue de Bréda comme une pierre qui déroule, furieux contre Arnoux, se faisant le serment de ne jamais plus le revoir, ni elle non plus, navré, désolé. Au lieu de la rupture qu'il attendait, voilà que l'autre, au contraire, se mettait à la chérir, et complètement, depuis le bout des cheveux jusqu'au fond de l'âme. La vulgarité de cet homme exaspérait Frédéric. Tout lui appartenait donc à celui-là. Il le retrouvait sur le seuil de la Lorette, et la mortification d'une rupture s'ajoutait à la rage de son impuissance. D'ailleurs, l'honnêteté d'Arnoux, offrant des garanties pour son argent, l'humiliait. Il aurait voulu l'étrangler, et par-dessus son chagrin planait, dans sa conscience, comme un brouillard, le sentiment de sa lâcheté envers son ami. Des larmes l'étouffaient. Des lauriers déballaient la rue des Martyrs en jurant tout haut d'indignation, car son projet, tel qu'un obélisque abattu, lui paraissait maintenant d'une hauteur extraordinaire. Il s'estimait volé, comme s'il avait subi un grand dommage. Son amitié pour Frédéric était morte, il en éprouvait de la joie. C'était une compensation. Une haine l'envahit contre les riches. Il pencha vers les opinions de Sénécal et se promettait de les servir. Arnoux, pendant ce temps-là, commodément assis dans une bergère, auprès du feu, humait sa tasse de thé en tenant la maréchale sur ses genoux. Frédéric ne retourna point chez eux, et pour se distraire de sa passion calamiteuse, adoptant le premier sujet qui se présenta, il résolut de composer une histoire de la Renaissance. Il entassa pêle-mêle sur la table les humanistes, les philosophes et les poètes. Il alla au cabinet des estampes, voir les gravures de Marc-Antoine. Il tâchait d'entendre Machiavel. Peu à peu, la sérénité du travail l'apaisa. En plongeant dans la personnalité des autres, il oublia la sienne, ce qui est la seule manière peut-être de n'en pas souffrir. Un jour qu'il prenait des notes, tranquillement, la porte s'ouvrit et le domestique annonça Madame Arnoux. C'était bien elle. Seule, mais non, car elle tenait par la main le petit Eugène, suivi de sa bonne en tablier blanc. Elle s'assit, et quand elle eut toussé, « Il y a longtemps que vous n'êtes venu à la maison. » Frédéric, ne trouvant pas d'excuse, elle ajouta « C'est une délicatesse de votre part. » Il reprit « Quelle délicatesse ?»« Ce que vous avez fait pour Arnoux, » dit-elle. Frédéric eut un geste signifiant « Je m'en moque bien, c'était pour vous. » Elle envoya son enfant jouer avec la bonne dans le salon. Ils échangèrent deux ou trois mots sur leur santé, puis l'entretien tomba. Elle portait une robe de soie brune, de la couleur d'un vin d'Espagne, avec un paletot de velours noir bordé de martre. Cette fourrure donnait envie de passer les mains dessus, et ses longs bandeaux, bien lissés, attiraient les lèvres. Mais une émotion la troublait, et tournant les yeux du côté de la porte. « Il fait un peu chaud ici. » Frédéric devina l'intention prudente de son regard. « Pardon, les deux battants ne sont que poussés. »« Ah, c'est vrai. » Et elle sourit, comme pour dire « Je ne crains rien. » Il lui demanda immédiatement ce qui l'amenait. « Mon mari, » reprit-elle avec effort, « m'a engagé à venir chez vous, n'osant faire cette démarche lui-même. Et pourquoi ? Vous connaissez M. D'Ambreuse, n'est-ce pas ? Oui, un peu. Ah, un peu. » Elle se taisait. « N'importe, achevez. » Alors elle conta que, l'avant-veille, Arnoux n'avait pu payer 4 billets de 1 000 francs souscrits à l'ordre du banquier et sur lesquels il lui avait fait mettre sa signature. Elle se repentait d'avoir compromis la fortune de ses enfants, mais tout valait mieux que le déshonneur, et si M. D'Ambreuse arrêtait les poursuites, on le paierait bientôt, certainement, car elle allait vendre à Chartres une petite maison qu'elle avait. « Une pauvre femme, » murmura Frédéric, « j'irai, comptez sur moi. Merci. » Et elle se leva pour partir. « Oh, rien ne vous presse encore. » Elle resta debout, examinant le trophée de flèches mongoles suspendu au plafond, la bibliothèque, les reliures, tous les ustensiles pour écrire. Elle souleva la cuvette de bronze qui contenait les plumes. Ses talons se posèrent à des places différentes sur le tapis. Elle était venue plusieurs fois chez Frédéric, mais toujours avec Arnoux. Il se trouvait seul maintenant, seul dans sa propre maison. C'était un événement extraordinaire, presque une bonne fortune. Et elle voulut voir son jardinet. Il lui offrit le bras pour lui montrer ses domaines, 30 pieds de terrain, enclos par des maisons, ornés d'arbustes dans les angles et d'une plate-bande au milieu. On était au premier jour d'avril. Les feuilles des lilas verdoyaient déjà. Un souffle pur se roulait dans l'air. Et de petits oiseaux pépiaient, alternant leurs chansons avec le bruit lointain que faisait la forge d'un carrossier. Frédéric alla chercher une pelle à feu, et tandis qu'ils se promenaient côte à côte, l'enfant élevait des tas de sable dans l'allée. Madame Arnoux ne croyait pas qu'il eût plus tard une grande imagination, mais il était d'humeur caressante. Sa sœur, au contraire, avait une sécheresse naturelle qui la blessait quelquefois. « Cela changera, » dit Frédéric. « Il ne faut jamais désespérer. » Elle répliqua. « Il ne faut jamais désespérer. » Cette répétition machinale de sa phrase lui parut une sorte d'encouragement. Il cueillit une rose, la seule du jardin. « Vous rappelez-vous ? Un certain bouquet de roses, un soir, en voiture ?» Elle rougit quelque peu, et avec un air de compassion railleuse. « Ah, j'étais bien jeune. » « Et celle-là ? » reprit à voix basse Frédéric. « En sera-t-il de même ?» Elle répondit, tout en faisant tourner la tige entre ses doigts, comme le fil d'un fuseau. « Non, je la garderai. » Elle appela d'un geste la bonne, qui prit l'enfant sur son bras. Puis, au seuil de la porte, dans la rue, Madame Arnoux aspira la fleur, en inclinant la tête sur son épaule, et avec un regard aussi doux qu'un baiser. Quand il fut remonté dans son cabinet, il contempla le fauteuil où elle s'était assise et tous les objets qu'elle avait touchés. Quelque chose d'elle circulait autour de lui. La caresse de sa présence durait encore. « Elle est donc venue là, » se disait-il, et les flots d'une tendresse infinie le submergeaient. Le lendemain, à 11 heures, il se présenta chez M. d'Ambreuse. On le reçut dans la salle à manger. Le banquier déjeunait en face de sa femme. Sa nièce était près d'elle, et de l'autre côté, l'institutrice, une Anglaise, fortement marquée de petites véroles. M. d'Ambreuse invita son jeune ami à prendre place au milieu d'eux, et sur son refus, « À quoi puis-je vous être bon? Je vous écoute. » Frédéric avoua, en affectant de l'indifférence, qu'il venait faire une requête pour un certain Arnoux. « Ah ah, l'ancien marchand de tableaux !» dit le banquier, avec un rire muet découvrant ses gencives. Oudry le garantissait autrefois, on s'est fâché. Et il se mit à parcourir les lettres et les journaux posés près de son couvert. Deux domestiques servaient, sans faire de bruit sur le parquet, et la hauteur de la salle, qui avait 3 portières en tapisserie et 2 fontaines de marbre blanc, le poli des réchauds, la disposition des hors-d'œuvre, et jusqu'aux plirettes des serviettes, tout ce bien-être luxueux, établissait dans la pensée de Frédéric un contraste avec un autre déjeuner chez Arnoux. Il n'osait interrompre M. d'Ambreuse. Madame remarqua son embarras.